C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. Ici, on analyse le langage, les mots et leur impact sur notre vivre ensemble. Je m'appelle Poli Mouzalia et comme d'habitude, je suis accompagné de Babel Mpongo. Bonjour Babel.
Bonjour Poli, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous parlons de cyberviolence verbale et en particulier celle qui émane de certains compatriotes de la diaspora. Ces Congolais qui vivent à l'étranger restent profondément connectés à leur pays d'origine. Malgré la distance, ils jouent un rôle important dans les débats publics. Mais leurs discours, amplifiés par les réseaux sociaux, suscitent des réactions contrastées, parfois même des tensions politiques.
Et effectivement, Babel, le lieu où l'on réside peut influencer la manière dont on s'exprime. Et pour certains Congolais vivant à l'étranger, cette liberté d'expression, combinée à la distance géographique, peut donner lieu à des discours critiques, parfois incendiaires, sur la situation politique et sociale en République démocratique du Congo. Ces discours traduisent souvent une frustration légitime, mais parfois ils sont perçus comme excessifs et déconnectés des réalités locales. Alors comment comprendre ce langage? Quel est son impact sur notre vivre ensemble? Et surtout, comment construire un dialogue respectueux entre les Congolais d'ici et d'ailleurs?
Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Didier Mukalangmakal. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication, également journaliste et enseignant à l'université de Lubumbashi. Il analyse régulièrement les interactions dans les cyberespaces congolais. Bonjour Didier.
Bonjour madame. Bonjour à tous.
Merci d'être là.
Avant de plonger dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch radiophonique. Cette scène se déroule sur un campus où des étudiants regardent une vidéo diffusée en direct sur un réseau social. On peut y entendre s'exprimer certains de leurs camarades partis vivre à l'étranger. On écoute ça et on en rediscute juste après.
Waouh, c'est du lourd ça.
Hein? Mais y'a quoi Mbouy?
Franchement Bouta, je suis grave impressionné là. Et, tu sais, nos anciens potes qui sont partis à l'étranger, tu sais, la diaspora, je commence grave à les envier.
Bah, ah ouais? Mais genre pourquoi?
Déjà leur live a changé des ouf, mais surtout, maintenant ils ont la liberté de causer sans filtre. Liberté totale.
Mais qui t'insinue quoi là? Franchement, je vois pas trop ce que tu kiffes là-dedans.
Bah, je kiffe trop leur poste. Ils balancent tout. Cache sans langue de bois sur les réseaux, c'est du feu. Ils dénoncent tout, surtout ceux qui clochent à l'université. Franchement, chapeau à la diaspora.
Attends. Donc c'est ça qui t'emballe comme ça, sérieux?
Mais bien sûr, ils ont capté les games. Là-bas, ils ont gagné une telle liberté des paroles qu'ils n'ont même plus peur de parler, de s'exprimer crûment. Et ils en ont ajouté un peu de piment, quoi.
Mais tu penses pas quand même que c'est un peu abusé, hein? Genre balancer tout et n'importe quoi juste parce qu'ils se croient inatteignables. C'est quand même irresponsable de leur part. C'est irresponsable.
Du moins, tu n'as une bouta. Ici, on est tellement habitué à la galère et à la censure qu'on nous a fait subir. On a même oublié nos droits, frangine. La liberté d'expression, c'est pas un luxe, c'est un droit.
Donc pour toi, si je comprends bien, jouir de la liberté d'expression, c'est poster du n'importe quoi sur internet
en manquant du respect aux autres. C'est pas ce que j'ai dit là.
Ah non, mais franchement. Oh.
Je kiffe trop leur poste. Ils balancent tout, cash, sans langue de bois, sur les réseaux, c'est du feu. Ils dénoncent tout, surtout ceux qui clochent, s'extasie l'un des étudiants. Une phrase qui illustre bien à la fois l'influence et la fascination que peuvent inspirer les compatriotes partis vivre sous d'autres cieux. Alors Didier Mukalangmakal, pourquoi on s'exprime différemment quand on est en Europe, aux États-Unis, que quand on est dans son propre pays, en l'occurrence la République démocratique du Congo?
Merci, c'est une très bonne question. Il y a deux choses qu'on peut observer lorsqu'on fait attention à ce que disent les compatriotes qui sont à l'étranger, lorsqu'ils parlent de leur pays, et ceux qui sont au pays, quand ils prennent la parole, c'est une question politique, sécuritaire ou économique qui émerge souvent. Parce que c'est là que les passions se déchaînent. Alors, ceux qui sont à l'étranger ont tendance à élever le niveau de la critique un peu plus haut. Parfois, c'est sans concession, mais je ne veux pas dire qu'ils sont toujours critiques. Parfois, les gens font des analyses très objectives et très intéressantes. Mais de manière générale, les gens prennent la parole sans considération de à qui on s'adresse et de quel sujet. Les sujets sécuritaires, par exemple, sont toujours sensibles partout au monde, qu'ils soient des États-Unis, de la France ou je ne sais pas de quel autre pays. Mais certains compatriotes qui sont à l'étranger, quand ils parlent des situations sécuritaires comme les deux armées ou un échec peu enregistré à l'armée nationale, on les sent beaucoup plus critiques et sans nuance, et l'idée derrière, on la sent tout de suite, c'est que, justement, vous ne pouvez pas mettre la main sur moi. En fait, c'est un leurre ou c'est un rêve, parce que l'histoire dans beaucoup de pays a montré que quand on veut avoir quelqu'un qui est même à l'étranger, on finit par l'avoir.
Comment alors expliquez-vous l'aura et même la popularité dont bénéficient certains influenceurs de la diaspora congolaise? Pourquoi les gens ont tendance à croire en leurs propos? Est-ce que c'est parce que les Congolais vivant à l'étranger représentent des sortes de modèles de réussite pour les compatriotes restés au pays?
Comme modèle, je ne dirais pas, parce que en suivant le débat et la campagne Yebela Umela qui a caractérisé la lutte ou les luttes autour
de la fin du mandat de l'ex-président Joseph Kabila, allez-y.
Joseph Kabila, effectivement, on a vu parfois émerger une sorte de contradiction. C'est pas les mots exacts, mais la comparaison, c'est celle-là, qu'il paraissait plus corvéable, il tolérait des choses que aucun autre peuple au monde ne tolérait. Certains répondaient en disant que vous ne faites que parler parce que vous êtes à distance, vous envoyez les gens à la mort, et vous ne pouvez pas venir au pays. Si vous êtes courageux, venez à Kinshasa et marchez avec ceux qui marchent, ils sont plus courageux que vous. Alors, à partir de ce moment-là, on peut sentir que les gens n'adhèrent pas foncièrement, nécessairement, aux discours tels qu'ils sont développés par ceux qui sont au niveau de la diaspora. Et il peut y avoir une raison pour cela. Cette raison, c'est notamment le fait que ceux qui sont dans la diaspora à l'étranger, pour la plupart, c'est des gens qui sont partis du pays il y a 20, 30 ans pour certains. En tout cas, si vous considérez ceux qu'on a appelés parfois les ultras, les combattants, les durs sont partis en Europe, aux États-Unis, il y a plusieurs décennies. Ils ont encore une image du Congo qu'ils ont laissé en 95, 2000, alors que des dynamiques sur le terrain ont changé, des jeunes accèdent aux réseaux sociaux, ils voient ce qui se passe à l'étranger, ils peuvent même essayer d'imiter certaines choses. Et donc, tous ces éléments font que ceux qui viennent de la diaspora peuvent être tantôt une source d'inspiration pour ceux qui sont au pays, et ça arrive de temps en temps. Il y a, par exemple, les premiers médias sociaux qui ont proliféré sur Internet et qui ont nourri la contestation en RDC, c'est venu de la diaspora, effectivement. Il y avait des médias de la diaspora, dont encore certains continuent aujourd'hui, qui diffusaient des messages parfois totalement faux, parfois vraisemblables et parfois qui étaient des vraies analyses. Ce sont les premiers Congolais qui ont accédé à Internet pour des usages citoyens, pour dire ce qu'ils pensaient et critiquer la démocratie. Donc, de ce point de vue-là, ils ont quand même à un certain moment influencé l'expression au niveau national, et donc ceux qui ont accédé aux réseaux sociaux à partir de 2011, ils ont pu marquer un premier pas en janvier 2015 lorsqu'ils ont descendu dans les rues de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi pour dire Yebela, ainsi de suite. Oui, il y a eu cette influence de la diaspora.
Oui, Didier Mukaleng Makal, dites-nous alors pourquoi, selon vous, certains Congolais de la diaspora adoptent souvent un ton critique lorsqu'ils s'expriment sur des questions politiques du pays d'origine, par exemple?
Alors, mon observation m'indique qu'il y a deux éléments. D'abord, le premier élément, c'est que il y a cette représentation dans la tête de certains qui pensent que puisque je m'exprime sur Internet sous un pseudonyme, on ne peut pas remonter jusqu'à moi. C'est un peu comme l'anonymat qui a fait l'objet d'un autre échange dans C'est le temps qui fait la panique. Il y a donc les gens qui pensent que quand ils s'expriment à l'étranger, ils sont inatteignables, mais c'est ce que je considère moi comme un leurre, une erreur, parce que beaucoup de pays montrent que quand on veut mettre la main sur quelqu'un qui dérange, même quand il est très loin, on finit par le voir. Le deuxième élément, c'est que ceux qui sont au niveau de la diaspora, ils ont quand même une expérience de comment les pays sont gouvernés ailleurs et de ce que représente la liberté d'expression. On a vu quand même, ce n'est pas un meilleur exemple qu'on puisse recommander, mais on a vu quand même en France quelqu'un donner une gifle à un président de la République. On a vu des gens crier des choses, des paroles très fortes sur un président et puis il ne leur est pas arrivé la catastrophe. Et donc, à un certain moment, les gens qui sont au niveau de la diaspora, ils vivent ces réalités-là au quotidien. Et donc, quand ils prennent la parole, ils peuvent réellement vouloir agir comme dans les lieux où ils se trouvent. Sauf que cette parole qu'ils prononcent à l'étranger, dans un milieu voulu libre, quand elle résonne ici chez nous, ça sonne... parfois avec des dissonances, parfois ça peut choquer certains pour dire « Oh là là, celui-là, il se prend pour qui ?» Il s'adresse quand même à un président ou à un ministre. Et donc, je pense que ça peut créer justement ce constat-là que les gens, quand ils prennent la parole, ils sont parfois beaucoup plus virulents.
Merci pour cette analyse, Didier Mukaleng Makal. Écoutons à présent un deuxième extrait de notre sketch radiophonique. On retrouve nos amis, les étudiants. Dans cette scène, ils expérimentent les dangers des propos lancés sur les réseaux sociaux par leurs camarades partis vivre à l'étranger. On écoute.
T'as vu ça? Le dernier poste de Amani et Kitoko. Mais c'est quoi ce délire verbal là?
Ils ont posté quoi?
Regarde, c'est grave. Depuis qu'ils ont commencé à poster des vidéos à partir de l'étranger pour s'en prendre aux membres du comité des étudiants, la situation devient compliquée.
Mais ça va de mal en pire. C'est plutôt génial. Faut que je m'abonne direct à leur compte. Ces dieux-là, ils balancent haut tout ce que le monde murmure en bas.
Frérot, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Il n'y a rien d'impressionnant. Pour moi, c'est juste des mensonges et des rapages. C'est
ouvre un peu les yeux, Mbouta. Ouvre les yeux. Tu vois pas qu'ils sont devenus nos voix là-bas? C'est archi lourd ce qu'ils font. Moi, je jure, je vais liker et partager tout ce qu'ils postent.
Attends, t'es sérieux là?
Je t'ai dit,
Mais tu vois pas que leurs vidéos balancées de l'étranger sont graves dangereuses?
Comment ça?
Mais papa, il y a une séquence où ils traitent carrément les membres du comité d'INIA. INIA! Genre, ils disent que ces gens-là n'ont rien à faire à la tête d'une institution aussi importante.
Mais dis carrément que c'est la vérité qui te dérange.
Mais non, c'était clairement trop. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'on s'est décrédibilisé en laissant ces épaves nous représenter.
Je suis sûr qu'ils savent exactement ce qu'ils font.
Non, comment tu peux dire une chose pareille?
Là-bas, à l'étranger, où ils sont, c'est pas n'importe où, C'est pas n'importe
où. Parce que c'est où, dis-moi?
C'est les quartiers généraux du savoir, de la liberté et des droits.
Arrête de défendre l'indéfendable. Arrête ça,
ma chère.
Ces paroles qu'ils postent sont dangereuses. Au contraire, fallait leur lâcher un commentaire bien lourd pour leur dire que c'est pas du tout correct. C'est pas correct ce qu'ils sont en train de faire.
Ma chère, faut s'adapter au mood de l'époque. On n'est plus dans l'ancien temps là.
Je suis sûr qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Là-bas, à l'étranger où ils sont, ce n'est pas n'importe où. C'est le quartier général du savoir et de la liberté, ainsi que des droits, affirme l'un des étudiants. Et beaucoup de compatriotes de la diaspora congolaise s'expriment sur les enjeux sociaux et politiques du pays avec retenue et respect. Mais on constate aussi que il y a certains, notamment des influenceurs, qui recourent à des propos violents ou insultants pour mobiliser leurs abonnés. Didier Moukalin, quel impact cela peut avoir sur la qualité du débat public?
Alors, l'impact peut être très important, mais permettez-moi de dire que justement dans la suite de la question précédente, pourquoi le propos est souvent dur quand on doit s'exprimer à partir de la diaspora, mais il faut aussi reconnaître le fait que pour certains compatriotes qui sont à l'étranger, se montrer trop critique et trop virulent, c'est une manière de justifier un séjour à l'étranger, parce que certains sont partis sous la casquette d'exilés politiques.
Oui.
On a vu quand même, oui, on a vu quand même certains critiquer Mobutu, Laurent Désiré Kabila est venu, ils ont critiqué, Joseph Kabila est venu, ils ont critiqué, Félix Tshisekedi est là, ils critiquent encore. Bon, à la fin, on se dit, bien, il n'y a même pas un tout petit peu d'amélioration au Congo. On peut se poser cette question et des soupçons circulent dans ce sens-là pour dire que c'est devenu une manière de justifier son statut de réfugié pour rester en Europe, parce qu'un jour, on peut dire à quelqu'un, bien, la situation s'est améliorée chez vous, il est temps de rentrer. Maintenant, pour revenir à la question que vous venez de poser, je me dis, les conséquences peuvent être très importantes, parce que on finit par d'abord montrer que ça ne va pas chez soi, et que tout ce qui est fait, il n'y a même pas des efforts minimes, et ça peut être quand même choquant, et pour ceux qui vivent des réalités au pays, et ça nous conduit à parfois à un discours à plusieurs tonalités, ben même si la polyphonie, c'est toujours important en démocratie, mais on peut dire que ça va bien au Congo, pendant que certains disent ça va mieux au Congo, d'autres vont dire que ça n'évolue pas, et donc cette contradiction peut avoir des incidences sur l'image du pays à l'étranger, par exemple au niveau de la diplomatie, et donc ça peut nuire effectivement à la réputation du pays.
Bien,
il y a d'autres éléments.
Bashing, oui.
Effectivement, oui. Bien, on se rend compte finalement que rien ne marche au Congo, tout est toujours mauvais, même quand il y a des choses qui sont bonnes. Quand on construit 10 kilomètres de route, ça c'est positif, ce n'est pas rien. Même si on peut se dire, au regard des moyens disponibles, est-ce qu'on peut se contenter de 100 kilomètres par an? Bon, ça c'est une question légitime qui peut être posée. Alors, d'un autre point de vue, ce type de discours finit aussi par carrément décourager certains qui pensent que ceux qui sont au niveau de la diaspora, parce qu'ils savent ce qu'ils font, comme vous venez de dire, et on suppose qu'ils en ont vu des réalités, et que en vertu des merveilles ou de la liberté à laquelle ils aspirent ou qu'ils côtoient, ils disent vrai. Et donc, à un certain moment, ça peut fausser la perception de ce qui se passe ici chez nous. Et certains peuvent se dire quand même, à un certain moment, que rien ne changera. Alors, dans ce pays, dans ce cas, il faut, je ne sais pas, se décourager, baisser les bras. Et donc, ça peut nous conduire à beaucoup de conséquences encore sur d'autres plans qui peuvent être beaucoup plus importants.
Alors, les appels au boycott, hein, notamment contre les artistes jugés proches du pouvoir, ou carrément les appels à la violence lancés depuis l'étranger, peuvent-ils avoir des conséquences directes sur la sécurité des citoyens, voire des institutions en République démocratique du Congo, Didier Moukalenk?
Oui, je pense, oui, je réponds directement, parce que ceux qui pensent par exemple qu'ils doivent se libérer parce que rien n'est plus possible, qu'on a épuisé toutes les voies, ils peuvent recourir à la violence. Et donc ce discours-là, il peut justement alimenter ceux qui sont prédisposés à la violence, et donc ils peuvent aller plus loin dans la violence. Et je pense aussi que certains peuvent se risquer la vie. Ils pensent que la réalité, le ton emprunté, par exemple, celui-là de la diaspora, on emprunte un discours pratiquement insultant ou injurieux, ça peut faire que, à la fin, ceux qui reçoivent ce discours qui peut être jugé insultant, ils peuvent répondre avec virulence et puis ça peut mal finir pour celui qui parle et puis on va se plaindre de la liberté d'expression. Oui, liberté d'expression, oui, mais quand on insulte, je me demande s'il y a une liberté d'insulter. Et donc, je pense que ce type de discours finit par avoir justement une incidence au niveau local.
Merci encore une fois pour ces éclairages. Et voilà qui nous permet d'entamer la dernière ligne droite de cette émission. Mais avant, écoutons un troisième extrait de notre sketch, toujours avec les étudiants. Et dans cette scène, ils prennent conscience du danger des propos que profèrent leurs camarades de la diaspora sur les réseaux sociaux. On écoute.
Waouh! Déjà 1000 likes! Cette vidéo de Kito Kayaman, c'est vraiment du lourd, regarde!
Mais je le savais en fait. Je savais que ce genre de propos allait mettre le feu. Je le savais, regarde! Mais regarde!
Il y a quoi? Tiens, tu dirais ta gagne.
Mais leur poste là, ça commence à créer un gros bordel. Regarde les coms. Il y a des menaces qui volent dans tous les sens. Ça pue la bagarre digitale.
Merde. Apparemment, les gens ne captent pas leur style de com. Pour moi, Amani et Kitoko veulent juste faire passer un message, c'est tout.
Papa, vraiment. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi ils n'ont jamais parlé comme ça avant leur petit tour à l'étranger? Pourquoi seulement ils arrivent là-bas?
Je n'y avais pas pensé, mais effectivement, avant de partir, ils disaient rien. Et maintenant, boum, ils balancent direct des trucs lourds.
Ah, mais il y en a plein qui profitent du fait d'être loin pour lâcher des paroles dangereuses. Ils font toujours ça. Ils pensent qu'une fois dehors, ils sont hors d'atteinte. Genre la loi peut rien leur faire.
Ah là, c'est quand même vrai ce que tu dis là.
Mais tu sais que même à partir de l'étranger, on est toujours responsable de ce que nous balançons en ligne. Oui.
Comment ça?
Si ça part en vrille, c'est sur nous que ça retombe.
Hein? T'es sérieuse?
Attends, être loin te donne l'impression que tu peux tout faire. Genre tu te lâches, tu critiques, tu clashes, tu dénonces. Oui, ok. Mais juste parce que c'est plus simple quand t'es pas sur place. Mais leurs paroles sèment la guerre entre nous ici.
Attends, mais t'as raison là. Je les appelle tout de suite.
Regarde, fais en sorte que tu leur expliques que ça peut mal finir ici.
Même à partir de l'étranger, on est toujours responsable de ce que nous balançons en ligne. Si ça part en vrille, c'est sur nous que ça retombe, finit par admettre l'un des personnages. Alors, Didier Mokaleng Makal, dis-toi, comment éviter que les critiques légitimes de la diaspora ne se transforment en discours destructeurs ou dangereux pour la stabilité du pays et le vivre ensemble?
Alors, la conclusion est vraiment excellente, à mon avis. Et comment faire pour que cette liberté qui peut inspirer, comme je l'ai dit à un moment, la liberté ici chez nous, ne nous conduise pas à la violence. D'abord, c'est justement faire de sorte que ceux qui sont ici arrêtent de considérer que tout ce qui est dit est vrai. Les gens ne disent pas toujours des choses parce que ils ont l'intention de servir, d'aider, d'aller de l'avant. Parfois, on vise vraiment des intérêts strictement personnels. Mais il est difficile pour celui qui reçoit son message à Moussoukantanda, je ne sais pas, à Katakokombe, de comprendre que ce discours, cette vidéo que j'ai téléchargée sur mon téléphone a été conçue dans un but manipulatoire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors là, c'est là qu'il faut jouer sur la responsabilisation. Ça veut dire que les gens soient en mesure de recevoir les messages des médias, des médias sociaux, avec un esprit critique. Et ça passe absolument par l'éducation, pas forcément l'éducation aux médias, mais c'est l'éducation de manière générale. Il y a quand même quelque chose de plus inquiétant. On est de moins en moins critiques dans notre pays. Beaucoup de gens n'ont pas assez le temps de réfléchir sur les choses que les gens déclarent. On pense que les choses sont vraies parce qu'on les a déclarées simplement. Et en plus, je pense qu'il est quand même important que le Congo aille un peu plus loin vers l'influence qu'on peut exercer sur toutes les plateformes d'expression populaire qui exploitent l'espace congolais digital. Ça veut dire qu'il y ait quand même une certaine influence possible de la gouvernance d'Internet avec des lois congolaises. Si ça ne peut pas être des lois congolaises, que ce soit au moins l'Afrique ou l'Union africaine qui puisse se constituer un front pour que, au niveau de la gouvernance des plateformes comme Facebook, YouTube et les autres, on puisse peser ensemble pour faire supprimer certains discours qui peuvent être dangereux pour la cohésion nationale, par exemple, ou pour la paix. Parce que, à ce jour, si vous demandez à certaines plateformes comme Facebook de supprimer certains messages, on peut vous répondre, on dit, nous avons vérifié nos standards, ce discours ne viole pas nos standards et donc il peut continuer. Donc là, même vous qui avez signalé, vous vous arrêtez net.
Alors pour finir, hein, une dernière question pour vous, hein, Didier. Comment les Congolais vivant au pays peuvent-ils répondre de manière constructive aux discours polarisants émis par certains compatriotes de la diaspora sans justement tomber dans la surenchère?
Alors, je pense que j'ai une proposition qui peut être fortement critiquée, mais je pense qu'il y a une influence qui peut être institutionnelle des discours publics. Beaucoup de pays le font. Il existe un narratif états-unien, il existe un narratif français, même si des Français et des Américains peuvent en dire autre chose. Mais nous, à notre niveau, il manque ce narratif qui soit congolais. Et quand il émerge, il est propagandiste au service des individus, des camps politiques. Mais on a du mal, même en ayant un ministère de la citoyenneté, nouvelle citoyenneté ou citoyenneté voulue nouvelle, on a du mal à constituer une idéologie, un narratif structuré qui soit adopté, adaptable, je veux dire qui soit adopté par n'importe quel régime qui arrive, parce que c'est fait avec des sensibilités politiques, donc ce qui fait des situations restreintes. Donc pour moi, il est très important que, autant que les discours individuels d'influenceurs émergent et peuvent influencer des changements, y compris ternir l'image de la RDC, il est aussi important que le Congo construise son discours à lui, sur lui-même, et que ce discours-là ne soit pas trop partisan, mais qu'il soit plutôt un discours qui mette d'abord en avant le Congo comme une identité commune plutôt que nos petites chapelles religieuses ou politiques.
Merci encore une fois pour ces éclairages, Didier Mukaleng-Makal. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Ce qu'on retient au final, c'est que le langage utilisé par la diaspora reflète bien souvent des frustrations légitimes, mais lorsqu'il verse dans les insultes, les menaces et les appels à la haine, cela devient dangereux, Babel. Pour construire un dialogue respectueux entre les Congolais d'ici et d'ailleurs, il faudrait donc encourager la compréhension mutuelle et privilégier des échanges constructifs.
Absolument, Pauli. Les Congolais vivant dans leur pays et ceux de la diaspora doivent apprendre à travailler ensemble malgré leurs différences. C'est en unissant nos forces que nous pouvons en relever les défis de notre pays.
Merci à notre invité Didier Mukaleng-Makal d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir nourri cet échange. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cette émission en rediffusion ce samedi à partir de 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa, ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net. Continuez à nous écrire et à partager vos réactions sur nos pages Facebook et X. Au revoir.
Au revoir et à très bientôt.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.